Et plouf! Dans le cadre du festival Les Yeux dans l'eau, on vous propose une petite rediff.
Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée. Une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Sécheresse à répétition, bouleversement des phénomènes météorologiques avec des pluies plus rares et plus abondantes, des étiages plus longs et un plus faible enneigement. Le constat du changement climatique est clair et s'accompagne de nombreuses transformations face auxquelles les agriculteurs et agricultrices en première ligne n'ont d'autre choix que de s'adapter. Parmi eux, certains et certaines expérimentent et recherchent des solutions pour tenter de répondre à une préoccupation commune à l'ensemble de la profession, mais plus largement à l'ensemble du vivant. Celle de la gestion et des usages de l'eau. L'hydrologie régénérative en est un parfait exemple qui s'inspire d'autres pratiques à l'étranger comme celle du keyline design en Australie ou comment planter la pluie. Seulement, voilà, l'agriculture ne peut pas à elle seule répondre à toute la problématique sans le soutien des institutions, des collectivités et des politiques publiques. C'est le sujet de cet épisode d'Il est une vallée pour laquelle nous sommes partis à la rencontre de fermes et de territoires qui l'expérimentent ainsi qu'aux deuxièmes rencontres de l'hydrologie régénérative qui ont lieu du 4 au 6 octobre aux Amanins, centre agroécologique à La Roche-sur-Grane. Hydrologie régénérative, un nécessaire changement d'échelle.
Théo pour Radio Saint-Pé, je
t'avais
contacté.
Ça va ? Oui.
Je me demandais si tu aurais le temps là, pas tout de suite, du coup j'imagine que tu filmes pour 10 minutes, 15 minutes d'interview.
Ouais, là on va commencer à dispatcher.
Je suis Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue et coprésidente, cofondatrice de l'Association pour une hydrologie régénérative. On a posé ce concept il y a 2 ans, lors des premières rencontres de l'hydrologie régénérative qu'on a organisées à Annecy. Et avec Samuel et Simon, les 2 autres cofondateurs, on a posé comme intention que l'hydrologie régénérative vise à la résilience hydrique des territoires en ralentissant, en infiltrant les eaux de pluie et de ruissellement et en densifiant la végétation. Et on se base sur un triptyque indissociable qui est le cheminement de l'eau, la vie dans les sols et les arbres, pièce maîtresse de tout cet assemblage en fait, sur les paysages.
On a des inspirations, nous, de différents endroits, de pratiques qui s'appellent keyline design. Ça vient d'Australie, ça a été pratiqué pas mal aussi en Amérique latine.
Simon Ricard, co-gérant d'un bureau d'études qui s'appelle Permalab, co-fondateur, co-président de l'association pour une hydrologie régénérative, qui a pour objet de diffuser la vision de la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement des espaces agricoles et du territoire, comme une vraie solution durable à toutes ces problématiques.
Un projet un peu inspirant et assez emblématique. Il est en Inde parce que là-bas, il y a dans des zones, des régions entières.
C'est un terme pour franciser, on va dire, des approches qui viennent de l'étranger, en fait, dans des endroits semi-désertiques, par exemple, où bah, en fait, ils ont développé des stratégies pour dire bah, chaque goutte d'eau qui tombe sur mon espace, bah, il y a besoin qu'elle reste là. Et donc, les cycles de l'eau soient régénérés plutôt que quand l'eau est tombe, eh ben, elle ruisselle, elle érode, elle crée des inondations, elle retourne trop vite à la mer plutôt que de recharger les sols, les sous-sols, les nappes phréatiques, la végétation. Et donc du coup, l'idée d'hydrologie régénérative, c'est un peu la science, entre guillemets, de la régénération des cycles d'eau, de comment on fait, et pour aussi fédérer en fait, plein d'acteurs qui travaillent déjà plus ou moins à ça, de longue date pour certains, et puis des acteurs aussi plus techniques, des hydrologues, des agronomes, des gens qui ne travaillent pas ou peu ensemble à l'échelle des territoires, et comment fédérer toutes ces compétences en fait, qui sont là au service de la régénération des cycles de l'eau. Quoi.
Bonjour à tous, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gal Serrant, je suis exploitant agricole sur cette ferme avec 2 associés, donc Fanny et Stéphane, en GAEC. Dès le début, en fait, quand Stéphane, donc mon associé, s'est installé, la ferme avait bénéficiait du réseau d'irrigation Cré Sud, donc réseau collectif. Et en 2022, ce réseau a été coupé pendant quelques semaines. Et donc, on s'est dit, pour parer à l'éventualité peut-être plus fréquente de ces coupures, on a une réserve d'eau pour éviter de revivre ça. Nous, on a un sol qui est génial pour faire des légumes, mais il est limoneux-sableux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'augmenter son taux de matière organique pour qu'il retienne un petit peu plus d'eau. En fait, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plein de petites solutions qui font que... On peut espérer lisser cette hausse de l'évaporation, de l'évapotranspiration et des températures chaudes. Donc là, dès qu'on a une parcelle libre, on essaie d'y mettre un engrais vert.
Fourconnier Marc-Antoine, alias Marco, moi je suis associé du GAEC de Mont-la-Hugue, du coup la ferme de l'école pratique de la nature des savoirs, depuis 2013. Ce GAEC, c'est l'un des plus vieux GAEC de la Drôme, hein. Il a été fondé dans les années 80. C'était élevage de brebis, aujourd'hui on a 1100 hectares. Alors attention, beaucoup de forêts, de landes, de falaises, on a 55 hectares travaillables, comme on dit. Et en 2013, en fait, on a choisi d'amorcer une transition vers un système permacole, essayer de monter une aventure collective et de diversifier en fait les productions, ce qui fait qu'aujourd'hui on a réussi à passer à 100% de vente directe en bio, et donc à fournir le territoire avec les produits du territoire, ce qui était vraiment un de nos objectifs.
Voilà, Mont-la-Huc. Donc nous, le parcellaire, en fait, il va du sommet de la montagne là, qu'on voit en face de nous jusqu'en face. Voilà, en face, c'est notre estif, c'est là où on fait manger les animaux en été. Et là, les animaux, du coup, sont en haut, au-dessus de Mont-la-Huc, sur le plateau.
Aujourd'hui, nous, on est 6 associés sur la ferme. Et en fait, ça nous laisse aussi la liberté de développer beaucoup d'autres choses. Et notamment, tout cet aspect, prendre soin des écosystèmes, essayer de rendre durable notre ferme, en fait, et qu'elle soit encore là dans 20 ans.
Ce qui est vraiment intéressant sur cette ferme, c'est de travailler à échelle de bassin versant, et notamment sur ces projets d'hydrologie régénérative. Voilà, on a un petit peu les clés en main pour pouvoir faire quelque chose de cohérent à une échelle où voilà, il n'y a pas quelque chose qui va casser la dynamique à côté. Ça a été un choix qu'on a fait, en fait, quand on a récupéré ce parcellaire, de se dire, en fait, c'est un formidable moyen de faire quelque chose ensemble, d'être co-responsable de notre territoire, co-responsable de l'écosystème. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire de l'agriculture à Mont-la-Huc, il est le bienvenu, mais en faisant avec nous, en intégrant la structure.
Les types de cultures aussi ont été adaptés et la façon de les faire. On a arrêté évidemment tout ce qui générait en fait de l'érosion, de la perte de sol et de la perte de l'eau. Et en fait, le dernier aspect, ça a vraiment été de repenser nos paysages. On hérite en fait d'une gestion paysagère qui est vieille, hein. C'est-à-dire que la Drôme, il y a déjà 500 ans, c'était une grande zone humide et avec l'ordre des Bévaries, on a commencé par éradiquer les castors pour assécher le territoire et en faire un gros axe commercial. Ensuite, on a eu l'éboulement du Clabs qui a généré un lac, on a quand même décidé de l'assécher et du coup, c'est aussi ce qui bloque les sédiments qui fait qu'en fait, on a une rivière qui a tendance à s'inciser et qu'on a en fait vraiment une problème de rétention d'eau et de débit au fil des années. Mais en fait, le plus gros problème pour moi, il est quand même principalement la gestion des voiries, des eaux de pluie et de l'agriculture. Dès qu'on a de l'eau qui tombe sur des toits, on les envoie dans des tuyaux, dans les ruisseaux et donc dans la mer. Dès qu'on a de l'eau sur les routes, on les envoie dans des fossés, dans les ruisseaux et donc dans la mer. Et puis au niveau agricole, ça fait 50 ans qu'on prône drainage, irrigation. Donc dès qu'il y a une zone humide, on perd un peu de surface, puis ça amène des maladies, donc il faut évacuer cette eau, et puis s'il y a besoin d'eau, on va pomper dans les nappes phréatiques pour arroser, alors qu'en fait, avec tout ça, on empêche les nappes phréatiques de se recharger. Donc, Au final, au bout de 50 ans, on a réussi à sécher les paysages comme on essayait de faire et on se rend compte que, bah oui, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, l'enjeu aujourd'hui principal pour nous, c'est d'essayer de ralentir et de diffuser l'eau. Voilà, donc de travailler sur les cycles de l'eau. Nous, il y avait des fossés de drainage donc, qu'on a comblés. On travaille énormément avec ce qu'on appelle des baissières. C'est des espèces de fossés qui suivent les courbes de niveau dans lesquelles les eaux de ruissellement bah, tombent et en fait ne peuvent filer ni à droite ni à gauche vu qu'on est selon les courbes de niveau, ce qui fait qu'elles sont obligées de s'infiltrer dans le sol, d'augmenter la réserve hydrique qui profite donc aux cultures et qui ensuite alimente les nappes phréatiques et ressortent bien souvent dans la source qui est juste en dessous. Et nous, il y a des endroits où ben voilà, l'eau servait une fois dans le paysage pour par exemple donner à boire aux habitants, le reste était envoyé au ruisseau. Nous, on a multiplié les usages jusqu'à 4 fois par endroit où en fait on réinfiltre l'eau, elle ressort dans une source, on s'en sert, on la réinfiltre en dessous, on la récupère dans la source qui est encore en aval, de façon en fait à multiplier ses usages. Donc ça, c'est sur les grands cycles de l'eau, le cycle de l'eau bleue, celui qu'on apprend à l'école là. Et ensuite, on a travaillé aussi sur tous les cycles de l'eau verte. Donc ça, c'est Hervé Covès qui nous a amené cette démarche. Tous les micro-cycles de l'eau en fait qui se passent dans la nature, comment ça se passe dans les forêts, comment la végétation en fait est capable d'attraper l'eau atmosphérique et par l'intermédiaire des mycorhizes de la redistribuer aux écosystèmes aux alentours. Les mycorhizes, ils ont étudié qu'elles étaient capables de transporter de l'eau à 150 mètres de distance à l'horizontale et 50 mètres à la verticale. Donc c'est en fait véritablement elles qui font le maillage et la diffusion dans les écosystèmes de l'eau. Voilà, donc on a en fait planté là à peu près 3000 arbres dans les 3 dernières années. On est à 1,5 km, on va dire, de baissières et d'ouvrages qui servent voilà, à ralentir l'eau dans les paysages. On a eu la chance que le castor aussi revienne sur notre ferme il y a 3 ans. Donc on s'est rendu compte que lui était 10 fois plus efficace que nous. Ce qu'on essayait de faire depuis quelques années, bah lui en 2 ans, il avait les résultats immédiats.
3 zones castor là sur le cours d'eau qui est là en bas. C'est assez spectaculaire.
En fait, ça fait des millions d'années qu'il travaille avec les rivières, donc c'est vraiment un expert, on va dire, de la gestion de l'eau.
Ça a permis de reconstituer le seul corridor de zone humide entre le bassin de Vègue et le bassin de la Drôme.
Et de comment générer en fait, le milieu dont il a besoin pour vivre, qui est clairement des zones humides. Et donc en fait pour nous ça a été une grande source d'inspiration pour approfondir nos techniques, aller un petit peu plus loin dans la démarche, notamment travailler sur l'incision des ruisseaux, sur remonter le niveau des nappes affleurantes pour que ben, en fait, la végétation puisse en profiter. Et puis aujourd'hui on est axé pas mal sur la régénération des forêts de pins qui sont en train de péricliter, en fait l'ONF le dit aussi. Et donc si on n'accompagne pas aujourd'hui les forêts pour aller vers des forêts de feuillus, ben, demain il sera trop tard et en fait c'est les forêts, les milieux les plus infiltrants, donc qui permettent aussi d'avoir de l'eau dans les écosystèmes.
Alors mon lac, ouais, on est vraiment une petite combe en fait exposée plein sud, donc on est bien ensoleillé. Et la particularité de ce paysage, c'est vraiment ces éboulis. Ça a généré en fait au sommet des falaises, et les falaises amènent nécessairement des pierriers. Et l'avantage d'un pierrier, c'est que c'est les zones les plus infiltrantes dans les écosystèmes. C'est ça qui fait qu'on a des nappes phréatiques et plein de petites sources qui ressortent en dessous. La deuxième chose dans le paysage, eh ben c'est que juste en dessous de ces pierriers, et même sur ces pierriers, on a des forêts. Et les forêts, de la même façon que le pierrier, c'est les deuxièmes zones les plus infiltrantes. Dans un sol forestier, c'est pareil, il n'y a pas de ruissellement. Quand il pleut sur de l'humus, ça va s'infiltrer directement. Donc on a deux choses qui permettent d'avoir vraiment une bonne réserve d'eau et des sources qui coulent un petit peu de partout. Voilà.
Le grand principe, en fait, est que l'endroit où on peut le mieux stocker l'eau, c'est vraiment dans les sols. Et les montagnes, en fait, ont cette fonction de constituer les réservoirs d'eau, justement, pour qu'il y ait de l'eau en permanence qui se diffuse, qui sorte de ces sols et qui retourne dans les ruisseaux. Et c'est ce qui fait qu'il y aura de l'eau qui coulera toute l'année dans la Drôme, si on arrive à refaire des réserves dans les montagnes. Donc, évidemment, les mycorhizes bah, sont liées à la matière organique, à la vie des sols, des choses qu'on a quand même bien dégradées aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail autour de ça. Donc, voilà, le stockage, la diffusion, question. En fait, il y a plein d'alliés dans le vivant qui sont capables de le faire. Et l'idée, c'est comment on peut juste stimuler ces petites dynamiques naturelles, faire en sorte que ça aille plus vite. Et ça, c'est un des gros enjeux pour moi aussi de l'agriculture de demain, c'est de comprendre que c'est le vivant qui fait pour nous. À chaque fois qu'il y a une espèce qui disparaît, c'est une composante du système, c'est un équilibre qui est détruit et dont il va falloir qu'on fasse le boulot à la place, avec des moyens qui sont souvent de l'énergie fossile, du temps de travail, de l'argent, etc.
Mais comme quoi, même les techniciens de rivière, l'OFB, tout ça commence à s'y mettre aussi. Donc voilà, même les institutions, en fait, sont en train d'aller vers cette approche de hydrologie régénérative, de reprendre en main en fait nos cours d'eau et faire en sorte que il y en ait de plus en plus quoi. Mais il reste du boulot.
Carole Rebarman et j'habite à Cray. Je suis ingénieure agronome et je suis membre bénévole de l'association pour une hydrologie régénérative qui est l'association qui organise les deuxièmes rencontres de l'hydrologie régénérative. On est nombreux à penser qu'on va vivre des épisodes extrêmes en termes d'inondations et de sécheresses de plus en plus. Et l'hydrologie régénérative, ça fait partie des palettes, des outils, des approches qui peuvent nous aider à mieux traverser le futur et si possible dans la joie.
Boris Deuil, enchanté. Moi, je suis réalisateur de films et passionné d'eau vive. Le climat évolue et au jour d'aujourd'hui, il faut se réadapter, il faut rééduquer un peu les gens, il faut qu'on apprenne et qu'on évolue durablement.
Loïc Viric, je suis moniteur de kayak. Pour moi, l'enjeu, il est au travers de notre posture, notre position d'humain dans le milieu naturel, en sachant qu'on en fait partie, et peut-être justement d'adopter plus ce point de vue-là plutôt qu'un point de vue où on serait extérieur au milieu naturel dans lequel on vit, quoi.
Emmanuel Extier, et je suis maraîcher aux Amanins depuis 6 ans maintenant.
Abdul Wahab Abdou, et je suis maraîcher aux Amana depuis un an et demi. L'hydrologie, c'est une réflexion en fait, qu'on porte et essayer de voir ici aux Amana comment l'imprégner et l'intégrer aussi dans le modèle qu'on met en place.
On a participé à quelques formations, à quelques visites aussi cette année, dans l'optique de l'initier aux Amana, quoi. L'hydrologie régénérative n'était pas prise en compte à ce moment-là, mais au tout début du projet, il y a eu des plantations de haies, pas mal d'arbres aussi à travers un verger maraîcher. Et du coup, je pense que les aménagements à venir, ils seront de récupérer l'eau de ruissellement, de l'infiltrer pour recharger les nappes, de faire des baissières, en fait, pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble du bassin versant.
Je pense que ça serait judicieux et intéressant que les politiques s'y penchent clairement pour appuyer et accompagner cet élan. Et là, on parle d'alimentation, un élément nécessaire et vital. Donc, au fait, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le choix. À un moment, l'inaction sera plus que condamnée et condamnable, quoi.
L'enjeu, il est de changer d'échelle, en fait. Notre bassin versant, là, c'est celui de la Grenette, qui fait partie du bassin versant de la Drôme. Et en fait, s'il n'y a pas une politique cohérente, en fait, d'un point de vue global, je pense que ça ne peut pas fonctionner.
C'est vraiment là qui est aussi un objet de l'hydrologie régénérative, c'est vrai que c'est un peu de sortir du seul monde agricole pour aller en effet sur toutes les composantes d'un territoire, les routes par exemple, sur les cours d'eau et évidemment en milieu urbain. Il y a des logiques qui sont très similaires et qui ont été de dégrader le cycle de l'eau en accélérant, en évacuant la politique du tout tuyau, on va dire, que ce soit en milieu agricole ou en milieu urbain. Et puis l'imperméabilisation des sols, l'artificialisation des sols en général, la dévégétalisation. Et du coup, il y a un enjeu à deux choses, à ce que ce soit appliqué sur l'ensemble des composantes et que ce soit appliqué de manière cohérente sur l'ensemble d'un territoire. C'est-à-dire, on parle à l'échelle de bassin versant, et c'est la bonne échelle du bassin versant parce que, en plus, c'est l'échelle territoriale qui est très relative à l'eau, et que souvent, les problématiques qui se retrouvent en aval, au niveau des communes, par exemple, c'est parce que ça vient de l'amont, quoi. Des inondations, elles viennent d'abord de ruissellements qui ont lieu en amont. Donc, il y a un enjeu, dans beaucoup de cas, à ce qu'on fasse un travail sur les territoires territoire en amont, sur les parcelles agricoles, sur les forêts, sur les cours d'eau pour les ralentir. On sait que la solution elle passe par quelque chose à l'échelle du territoire, de multi-acteurs, transversal. Mais évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il faut que tout le monde soit motivé, d'accord, et tout ça. Donc ça demande aussi qu'il y a un enjeu citoyen, il y a un enjeu collectif qui a ressollicité. Et pour le coup, le département de la Drôme et la vallée de la Drôme en particulier est un bon exemple puisqu'il y a un peu un historique d'une dynamique citoyenne et politique autour de la rivière Drôme. Donc effectivement, l'association Biovallée, le syndicat mixte de la rivière Drôme, les alvéoles, Permalab, Marc-Antoine Forconi du GAEC de Mont-Lahuc, quelques pionniers, on va dire, tous ensemble, en fait, facilitent l'émergence de projets locaux, on va dire, à l'échelle de ferme, mais aussi territoriaux pour la suite.
Bonjour. Vous voulez boire quelque chose, non?
C'est juste un petit verre d'eau.
Un petit verre d'eau. Merci.
Pascal Baudin, je suis maire de cette commune depuis 1995, donc Bellegarde-Andiwa, agriculteur sur la commune de 1982 à 2013. Troupeau au vin, principalement.
Installez-vous sur la terrasse.
Super, merci.
Vice-président à la communauté des communes du Diois, donc eau assainissement. À ce titre-là, je suis vice-président du syndicat mixte Rivière Drôme. Je suis également vice-président de la commission locale de l'eau en charge de la thématique partage de l'eau. Et puis, je suis aussi au bureau de l'EGE où on met en place le PTGE aussi, donc Programme Territorial de Gestion de l'Eau. Alors, premier rôle du syndicat mixte Rivière Drôme, c'est la compétence GEMAPI. Donc, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. On voit dans l'actualité que la rivière, elle peut être sèche, mais elle peut être dévastatrice. Donc, redonner sa place à la rivière, on l'a, je crois, trop souvent étranglée entre des digues. Alors qu'une rupture de digue, c'est une vague qui envahit d'un seul coup et là, il y a des morts. Donc, la première des choses, c'est ce volet inondation. Après, gestion des milieux aquatiques, assurer la continuité écologique de la rivière, redonner de la vie dans la rivière. Donc c'est toutes ces actions d'entretien de la forêt alluviale, de bon écoulement des eaux, gestion des atterrissements, des choses comme ça, entretien anglais général de la rivière. Donc on va réunir les trois intercommunautés, les acteurs un peu du territoire, des citoyens, des associations de défense de l'environnement, des industriels, des agriculteurs, pour fixer un peu les lignes d'action qu'on va mettre en place. Quand on est dans ces thématiques-là, hein, la résilience en fait... On veut toucher un maximum de gens et on parle d'hydrologie régénérative. Et moi, je trouve que là, on est en réécriture de SAGE, donc schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Et je me rappelle, dans les premières réunions, j'avais dit faut que ce document il soit compréhensible par beaucoup de monde et il faut qu'on évite d'employer des gros mots, en fait. Et si on veut que les gens comprennent et adhèrent, il faut absolument qu'on ait un vocabulaire clair. Dans ce domaine, parce que l'eau, c'est une préoccupation. La prospective Sage Drôme 2050 montre que au niveau précipitation, on va avoir les mêmes, mais sous forme complètement différente. On l'a vu ces derniers jours, des gros coups de pluie, donc de l'eau qui va courir rapidement. On va avoir un enneigement qui va baisser. Et puis, des températures élevées, ce qui fait que la végétation va avoir besoin de beaucoup plus d'eau. Donc voilà, tous ces phénomènes-là cumulés qui fait que l'eau va devenir une préoccupation. Ce qui est sûr, c'est que le monde agricole, comme le monde de l'eau potable, tout le monde doit s'habituer à d'abord de la sobriété. Et puis, il faut s'attendre à des mesures strictes si on veut continuer à vivre dans ces pays. Il ne faut pas attendre que ça coule plus. D'où, effectivement, l'idée de dire hydrologie régénérative, qu'est-ce que je fais au niveau de mon paysage quand on modèle des parcelles pour que cette eau, au lieu de courir directement à la rivière, ben, passe par des étapes de ralentissement, d'infiltration, de pénétration dans le sol, etc. Quand on replante des bosquets, des choses comme ça, ça prend du temps avant d'être efficace. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer ça. Donc moi, au niveau de la communauté de communes, comme on est en train de préparer la compétence eau-assainissement, on a sensibilisé toutes les communes pour qu'il y ait des compteurs de partout, y compris sur les bâtiments communaux, sur les écoles, sur les fontaines, sur toutes les sorties de réservoirs, de façon à ce qu'on ait déjà la connaissance. On est avec les communes sur la réflexion aujourd'hui des écoulements d'eau, hein, avoir des réseaux séparatifs, des choses comme ça, pour que cette eau ne reparte pas tout de suite à la rivière. Il y a des moyens, tout un tas de petites choses qui permettent à l'eau de rester sur place. Il y a même une expérimentation avec le conseil départemental, là, qui va sur certaines zones boucher un peu les fossés, de façon à ce que l'eau reste dans les parcelles agricoles, mais pas systématiquement envoyée à la rivière. Dans l'histoire, les gens mettaient des coups de pioche de partout pour qu'elle s'en aille le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il faut la conserver le plus possible.
De la douleur à tous les niveaux.
Juste qu'on aborde le deuxième sujet.
Je m'appelle Daniel Gilles, je suis éleveur caprin en polyculture élevage bio, entre autres. Je suis adjoint à la mairie de Soues. Je suis délégué au transfert de compétences de l'eau et de l'assainissement du bloc communal vers les intercommunalités. Et je suis conseiller départemental du canton de Cré. Donc le département de la Drôme, il est compétent dans plusieurs domaines, dont l'aménagement et les routes départementales. Aujourd'hui, on est dans un système où on est ingénieur ponts et chaussées, c'est politique tout tuyau. On va faire des digues de 10 mètres à l'aval de la rivière, par contre on ne va pas se préoccuper de l'amont. Il a fallu faire passer le message. Et bien le message politiquement, il est passé, le vice-président en charge des routes, Jean-Michel Avias, il a dit on part dans cette direction. C'est pas facile, hein. Ça demande des outils juridiques, ça demande. Voilà, c'est. On complexifie et du coup on change aussi les délais de réalisation de ces travaux, sachant qu'il y a quand même un enjeu de protection des populations. Moi j'ai essayé de vendre ça comme un projet vitrine du département, on fait un essai sur ce secteur, et si ça fonctionne et si on arrive à trouver des solutions, et bien derrière on pourra le répercuter sur d'autres bassins versants. Et d'autres routes départementales sur le département. Ouais. J'avais une question.
Ouais. J'ai l'impression que sur plusieurs territoires, moi je viens d'Auvergne, du Puy-de-Dôme, on a des alliés un peu dans les institutions, des gens qui commencent à s'ouvrir à ce type de pratique. Mais après, la redescente sur le terrain, et donc, bah, comme vous avez dit, quoi, des agriculteurs, des propriétaires, etc. Ça veut dire que des fois, à l'échelle de Bassin-Versant, il faut mettre plusieurs milliers de personnes d'accord, quoi, parce qu'on a des parcellaires qui se sont découpées en propriétés.
Et je m'appelle Anton, j'habite en ce moment dans le Puy-de-Dôme, je suis paysan, je m'occupe principalement de plantes, on fait de l'accueil social aussi, on a une ferme sociale autour de l'agroforesterie Saint-Tropique. Du coup j'avais envie voilà, de profiter des rencontres là, pour venir parler avec d'autres gens qui suivent d'autres expériences, qui ont leurs propres expériences, qu'on puisse échanger, voir ce qui se fait, voir les freins, comment ils arrivent à les lever, voir comment ils travaillent avec les territoires notamment.
Coradite Lemonnier, je travaille à 7 Agglopole Méditerranée, donc dans l'Hérault, et je suis au sein du service espace naturel et agricole, et je travaille notamment sur tout ce qui est agroécologie avec des agriculteurs de mon territoire.
Pascal Beaujean, je fais partie en fait de l'hydrologie régénératrice de Belgique en fait, qui est une association belge. Donc on est quatre venus pour ce week-end ici en Drôme.
Je suis du Pas-de-Calais, je m'appelle Jérôme et avec ma compagne en fait on porte un projet d'école du nourricier pédagogique. Il se trouve qu'on est sur un territoire où on est très sensible à ce sujet-là, notamment par rapport à la question inondation, parce qu'on a été inondé 8 fois en 4 mois. Et puis bah justement, ça me ravit en fait de voir qu'en Belgique aussi, ils s'approprient aussi ce sujet-là et de voir qu'il y a des ponts qui sont en train de se créer, ça donne de l'espoir.
Le problème en fait des inondations dans le Pas-de-Calais, c'est présenté avec plus de 140 personnes qui sont mortes en Belgique, dans le bassin d'Avestre. Et donc, on en discutait justement, c'est vraiment de pouvoir quantifier effectivement de manière méthodologique et scientifique la problématique. C'est à un moment donné de pouvoir montrer au pouvoir public, aux élus, ben voilà, il y a ce qui s'est passé, on a foiré, il y a eu des problèmes, il y a eu des techniques qui n'ont pas été utilisées, mais de pouvoir le quantifier pour pouvoir en parler aux agriculteurs, en parler à tous les intervenants, y compris les élus.
En fait, quoi, ce que je constate aussi, et ce que quelque part je déplore de ne pas voir encore à l'heure actuelle chez nous, dans le Pas-de-Calais, et que j'essaye d'impulser, c'est justement vraiment un esprit de solidarité amont-aval. parce que la question de l'eau, en fait, justement, il y a une continuité, il n'y a pas de frontière administrative, et ça, malheureusement, en fait, justement, il y a encore trop peu de personnes qui partagent pas cette vision-là, en fait, quoi, et c'est ce qui rend un peu les choses compliquées. Et du coup, il y a peut-être des freins aussi par rapport à la propriété privée. Et en fait, si on veut avoir réellement un impact, moi, ce que je vois, c'est que sur mes parcelles, en fait, justement, j'ai fait de l'hydrologie régénérative et je constate que ça fonctionne. Sauf qu'en fait, je suis sur 1,2 hectare et autour de moi, il y a un plateau, justement, de 60 hectares. Et quelque part, tant que ce ne sera pas fait, en fait, à l'échelle, justement, du bassin versant ou du sous-bassin versant, plus précisément, bah, malheureusement, en fait, j'aurais beau faire tout ce que je veux, ça ne fonctionnera pas.
L'eau, ça circule au-delà du cadastre. Donc ça traverse les propriétés et tout ça, et je pense qu'il faut qu'on fasse une petite révolution au sens littéral du terme, quoi, qu'on change de logiciel. Et notamment, la propriété a besoin d'être entièrement refondée pour aller vers des usages partagés, et que ce soit ça qui prime, et qu'on puisse du coup discuter autour d'un cours d'eau, autour d'un bassin versant, peu importe qui est sur le cadastre.
L'hydrologie régénérative, elle vise et elle concerne en particulier les élus, donc les collectivités territoriales qui ont la compétence sur l'eau potable, l'assainissement, la gestion des rivières, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, etc. Et en fait, on cherche à donner une cohérence d'ensemble, une vision à l'échelle des bassins versants. Les bassins versants, ce sont les cuvettes naturelles délimitées par les reliefs dans lesquelles va l'eau de pluie à travers les rivières. Mais nous, on cherche vraiment à replacer l'échelle bassin versant et allier cette question de résilience hydrique avec la notion de résilience globale autour de l'alimentation, autour de la souveraineté, etc.
Cette question de passage à l'échelle. Et tout le long de ce week-end, ça va être cette question de déployer le passage à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des territoires, et voire même plus large encore, le continent.
On parle beaucoup de techniques d'aménagement de territoire, de techniques de gestion des rivières. Et en fait, une des choses qui nous est apparue, c'était de replacer la question de l'eau comme un commun et comme un enjeu démocratique. Et la base, en fait, de toutes ces approches, c'est d'inclure l'ensemble de ces acteurs et d'être en capacité de faciliter les échanges entre eux et de partager une vision commune de cette gestion de l'eau dans une perspective de résilience climatique, écologique et démocratique aussi, de dire que chacun peut s'emparer de la question et dans ce dialogue territorial avoir aussi une voix pour régénérer le cycle de l'eau sur son territoire.
Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Oui.
Oui, Nicolas Alban.
Oui.
Bonjour, Théo Fortunato pour Radio Saint-Ferréol.
Parole d'ici,
de là.
Nicolas Alban, je suis directeur régional pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, l'Agence de l'eau est un établissement du ministère de l'Environnement qui a pour vocation d'aider, de soutenir toutes les opérations qui restaurent le cycle de l'eau. Et pour ce faire, on prélève des petites redevances auprès de tous ceux qui ont un impact négatif sur la ressource en eau. Et donc, avec ces redevances et l'argent qu'on collecte, on finance des opérations de restauration de l'environnement, que ce soit en matière d'eau potable, de réduction des pollutions, de restauration des milieux naturels. Donc l'Agence de l'eau accompagne tous les gens qui s'intéressent au cycle de l'eau et qui ont envie de travailler pour lui. Donc ça va bien entendu des collectivités qui protègent la ressource en eau, leur ressource en eau potable et qui épurent les effluents domestiques à travers les stations d'épuration. On a aussi tous les gens qui restaurent les milieux naturels, donc les travaux sur les rivières, sur les zones humides. Et c'est bien naturellement qu'on s'est intéressé très vite à l'hydrologie régénérative, et notamment à travers un appel à projet qu'on a lancé il y a quelques mois, et où on a cherché à favoriser quelques projets d'hydrologie régénérative dans la région Rhône-Alpes. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse était très en pointe sur la question de la désimperméabilisation, à savoir l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol en milieu urbain. Et ça, c'était vraiment un créneau qu'on a beaucoup travaillé et qu'on a beaucoup accompagné ces dernières années avec des centaines d'hectares de désimperméabilisation. C'est-à-dire où vraiment on a travaillé justement sur valoriser l'eau de pluie, à travers son infiltration dans le sol. Ça nous semblait vraiment un point clé pour plein de raisons. Et donc, naturellement, dans le prolongement de la désimperméabilisation, effectivement, l'hydrologie régénérative apparaît un peu comme l'équivalent en milieu rural. Et donc, on va faire exactement le même travail. On va réfléchir à mieux ne plus évacuer l'eau de pluie comme un déchet à travers des fossés, à travers des tuyaux, mais plutôt au contraire de la garder là où elle tombe, l'infiltrer sur place pour non seulement en faire bénéficier le sol, les végétaux, mais aussi le sous-sol à travers les nappes, l'alimentation des nappes souterraines. Il nous semble très important de montrer qu'on peut ralentir le cycle de l'eau. C'est tout l'enjeu de ce que fait l'agence depuis des années, c'est non seulement arrêter d'accélérer ce cycle de l'eau à travers des aménagements qui l'évacuent le plus rapidement possible, mais au contraire, essayer de la retenir sur place pour la valoriser et pour en avoir tous les bénéfices au moment où on en a besoin. Alors, ce qui est intéressant avec l'hydrologie régénérative, c'est que c'est vraiment ça part du terrain. On n'a pas besoin de l'expliquer très longtemps. C'est vraiment quelque chose d'assez fascinant parce que souvent, quand les techniciens, on arrive avec des solutions un petit peu pointues, on se heurte souvent à non seulement ce qui a été fait par le passé, mais en plus, il faut expliquer scientifiquement pourquoi on veut faire ça, pourquoi. Et là, ce qui est vraiment incroyable avec l'hydrologie régénérative, c'est que tout de suite, ça parle. Bah oui, effectivement, en plein été, sécheresse, bah oui, il faut garder l'eau dans le sol. Et chez nous, c'est vraiment cet enthousiasme, il rejoint une idée, c'est que les solutions fondées sur la nature sont souvent les plus efficaces, les moins chères et celles qui apportent le plus de bénéfices. Et donc là, avec l'hydrologie régénérative, on coche toutes ces cases, à savoir vraiment, on va utiliser ce que nous donne la nature, c'est-à-dire la pluie, le sol, pour vraiment tirer le maximum de bénéfices pour nos usages. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de simple. Hein. La solution miracle et les solutions un peu faciles, elles n'existent pas vraiment. Et il va falloir déployer des choses un peu diffuses. Typiquement, ben voilà, l'hydrologie régénérative, il va falloir aller dans chaque parcelle agricole, peut-être travailler avec l'agriculteur pour essayer de réfléchir autrement, faire autrement, chacun à son niveau. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les assises de l'eau en Drôme. Donc, les solutions, on les connaît, hein, c'est déjà mettre tous les usagers de l'eau autour de la table, surtout ne pas réfléchir chacun dans son coin, parce que l'eau est un seul bien commun et une seule ressource, et il faut qu'on la partage tous ensemble. Et puis ensuite, il faut discuter, trouver des compromis, et ensuite, il faut mettre en œuvre. Et à ce moment-là, effectivement, on va chercher les acteurs utiles et efficaces, et l'Agence de l'eau est un soutien financier pour tous ces acteurs qui veulent faire.
Donc une nécessaire mise en réseau et mobilisation de tous les acteurs et usagers de l'eau. Merci Nicolas Alban.
Merci à vous. Au revoir.
Quelques mots pour vous raconter ce qui s'est passé en Roquesol en 2020 lorsque j'ai été élu, parce que je suis un élu. Nous sommes allés voir les agriculteurs pour leur demander qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'allait pas. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, et en particulier le déficit hydrique qui est frappé à cette époque-là nous a amené à considérer que la situation de l'eau était une situation prioritaire.
Il y a 3 jours là, de rencontres. Une première journée à destination des collectivités qui sont engagées dans des projets sur leur territoire, soit pour accompagner des agriculteurs autour de ces approches d'hydrologie régénérative, soit carrément qui ont des projets à l'échelle des sous-bassins versants, comme l'agglo de Valence-Roman par exemple. Et donc de profiter de ces collectivités qui ont déjà lancé des projets pour les réunir et proposer en tout cas à d'autres de venir échanger, s'inspirer, visiter des choses sur place, discuter avec les collectivités qui ont déjà engagé des choses. Beaucoup disent qu'ils rencontrent des problématiques en termes d'eau depuis l'été 2022 en particulier, ça y a eu un peu une accélération du phénomène, et du coup beaucoup de collectivités cherchent des solutions, et quand il y en a certaines qui ont déjà fait le pas avancé, c'est toujours intéressant pour en termes de retour d'expérience.
Chercher des solutions, et une des solutions c'est l'hydrologie régénérative que nous appelions à l'époque tout bêtement technique du Killing Design.
Donc on a 5 collectivités pilotes qui se sont lancées dans un dispositif exploratoire en collaboration avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. On est seulement au stade démarrage, donc la dynamique est en marche, est en route, et elle concerne de nombreux acteurs, pas que les collectivités, mais aussi les citoyens, les agriculteurs, les entreprises, des territoires qui peuvent tout à fait s'investir dans ces questions de résilience hydrique dans un optique, encore une fois, de ralentir l'eau le plus possible dans les sols agricoles, dans les rivières, en ville, mais aussi, et ça c'est une autre pièce, en tout cas un autre souhait que l'on aimerait avoir, fédérer les acteurs de la forêt.
Sur Archaglot et Rhône-Crussol, nous avons actuellement 17 porteurs de projets qui développent les études et l'aménagement de leur territoire, que ce soit de l'arboriculture.
Marise Perrier-Bourget, et je suis de Colomieux, une des 5 collectivités pilotes, suivies par PUHR. Ça donne lieu à des échanges, à voir comment on peut s'aider, s'entraider mutuellement pour voir les réussites des uns et des autres. Et voilà.
Agréger tous les partenaires sociaux, professionnels, que ce soit les agriculteurs, les viticulteurs, les espaces forestiers.
Une des intentions aussi de ces rencontres et les prochaines étapes qu'on aimerait amorcer est celle de l'essaimage territorial et de pouvoir structurer, organiser notre démarche sur les territoires, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais par contre, l'occasion c'était de se rencontrer et que derrière, d'autres puissent prendre le relais sur leur territoire en contactant leur agence de l'eau, en contactant leur collectivité, des représentants du monde agricole, etc. Et donc notre objectif, notre intention, c'est d'essaimer vraiment cette régénération massive du cycle de l'eau qui ne peut pas se limiter qu'à un territoire.
Voilà, je termine sur ce rêve fou qui est en train de s'enclencher.
Merci. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que Romain, tu as envie d'enchaîner pour...
Je vais vous présenter le projet qu'on lance sur le bassin versant du Bost. Donc le Bost, c'est un petit bassin versant sur le périmètre de Valence-Romain Aglo. Le Bost, qui est donc la rivière principale de ce bassin versant, elle connaît des problématiques d'assec et d'inondation. Donc c'est surtout nous, l'entrée ruissellement au départ est limitée et mieux gérer ces extrêmes-là, que ce soit des assecs ou des crues. Enjeu eau potable aussi, puisqu'on a un captage d'eau potable à l'aval du bassin versant, donc c'est intéressant pour nous.
Donc on a le bassin versant, mais aussi un autre aspect, c'est cette question de l'eau verte. Et nous, on travaille spécifiquement sur la question de l'eau verte, donc l'eau qui est prise par les plantes dans le sol et qui l'évapotranspire. Une fois que cette eau est dans l'atmosphère, elle va reprécipiter ailleurs. Donc notre manière de cultiver cette eau verte chez nous en France aura des répercussions positive, on l'espère, sur les autres pays. Et donc, on cherche à faire cette alliance à l'échelle européenne des bassins d'eau verte pour que on puisse tous prendre soin et ce faisant, en fait, générer des pluies ailleurs sur d'autres pays. Cette eau verte n'est pas perdue.
Merci.
Merci à vous.
Merci aussi à l'ensemble des organisateurs, organisatrices, participants et participantes de ces deuxièmes rencontres de l'hydrologie régénérative qui ont eu lieu du 4 au 6 octobre au Zamanin. Ce documentaire a été réalisé et monté par Théo Fortunato avec l'aide de Mourad Yakupoglou à la prise de son pour Radio Saint-Ferréol et RDIWA avec le soutien de l'association BioVallée. Merci enfin à Marc-Antoine Forconi, Pascal Baudin et Simon Ricard, qu'on retrouve tout de suite en guise d'ouverture et pour continuer le débat, avec d'abord Jean-Pierre Royanet, président de la Chambre d'agriculture de la Drôme, et Rémi Martinerie. Bonjour.
Bonjour.
Tu es tout nouvellement chargé de mission au sol biodiversité à l'association BioVallée, et tu as également travaillé donc sur le plan territorial de régénération des cycles de l'eau sur le bassin versant du Bost, l'une donc des 5 collectivités pilotes, comme on l'entend en fin de documentaire. Quels apprentissages est-ce que tu tires de cette expérience qui est finalement assez récente, hein, je crois?
Oui, c'est tout à fait, c'est récent. Je travaillais donc pour Valence-Romain Aglo à la direction assainissement eau pluviale et rivières. On a mis au point un projet d'ensemble à l'échelle du bassin versant. avec le concours de l'Agence de l'eau, avec l'idée de vraiment agir de l'amont vers l'aval pour gérer tout le cycle de l'eau à travers ce projet. Ce que je trouve moi intéressant avec l'hydrologie régénérative, c'est que on peut l'aborder de différentes facettes, je dirais, avec des apports pour le cycle de l'eau, pour recharger les nappes, pour augmenter les débits d'étiage, du coup améliorer les conditions des milieux naturels. Si par contre on regarde les aspects plus en termes de crue, si on a trop d'eau à un instant donné, également ces actions-là elles vont avoir un effet bénéfique sur le territoire, sur le bassin versant, justement pour limiter les pointes de crue. Donc sur ces deux aspects-là, en tant qu'ingénieur en hydrologie, je trouve ça très intéressant. Et puis sur l'association Biovallée, puis mon arrivée dans ce cadre-là, ce que je trouve intéressant, c'est un peu la raison d'être de l'association, c'est coopérer entre et au service des acteurs.
Comment est-ce que c'est pensé cette idée de coopération justement, de mise en réseau des acteurs à l'échelle de bassin versant ou d'un territoire plus large comme celui de Biovallée?
C'est sûr que c'est une vraie difficulté quand on parle de la question de l'eau, parce qu'il y a un millefeuille déjà administratif autour de la question de l'eau, sur les compétences. Le fait que, effectivement, il va y avoir un service qui va être responsable de tel aspect, d'un autre aspect. Il y a différents acteurs, les riverains, les agriculteurs, les propriétaires fonciers, les différents syndicats mixtes sur l'eau potable, sur les rivières. Du coup, cette association Biovallée de coopérer ensemble entre et au service des acteurs, je trouve que c'est vraiment une voie alternative qui est, je crois, assez unique en France, d'avoir une association aussi forte dans ce domaine-là, et c'est une chance pour le territoire. Et c'est ce qui m'a emballé de rejoindre l'équipe.
Merci, Rémi Marcenoy.
Merci à vous.
Jean-Pierre Royenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de la Drôme.
C'est cela.
L'agriculture regroupe des réalités différentes en matière de production, de modèle économique, d'environnement, avec tout de même quelques grands communs, et notamment cette question de l'eau qui risque de devenir une préoccupation dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez d'abord rappeler en quelques mots les principales missions de la Chambre d'agriculture et notamment son implication en termes de gestion de l'eau et de son partage ?
Nous, on est là pour accompagner l'ensemble des agriculteurs et des agricultures, quelle que soit la taille et le mode de production, et dans les diverses, que ce soit réglementaire, que ce soit technique, que ce soit investissement, c'est notre rôle, il est vraiment là d'appui et de développement. Sur ce côté-là, au niveau de l'eau, on a tout ce qui est le sujet déjà auprès des agriculteurs de conseils pour l'optimisation donc de tout ce qui est consommation d'eau. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc, on a pris depuis 4 ans maintenant la gestion de l'OUGC, donc, c'est-à-dire de l'organisme unique de gestion collective. Donc là, dans le cadre des SAG, des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, il y a des volumes prélevables sur ces bassins-là qui sont définis par des études. Ça, c'est pas fait par la Chambre. Et donc, parmi ça, il y a un volume qui est attribué à l'agriculture. Donc, nous, l'OIGC est là pour gérer la répartition de ce volume par rapport à l'ensemble des irrigants du secteur donné.
Le concept d'hydrologie régénérative, je crois qu'il ne vous est pas complètement inconnu puisque vous avez même participé à une visite au GIEC de Montlaïuc, donc qu'on a entendu dans le documentaire.
Oui, j'ai participé à des visites, je connais le sujet, mais on en apprend tous les jours, on se perfectionne tous les jours. Ce qu'il faut bien voir, on fait tous un constat, je crois qu'on peut être assez unanime, quels que soient les acteurs, que sur le département de la Drôme, à l'échelle annuelle, on ne manque pas d'eau. La seule chose, c'est la répartition de ce volume dans l'année et surtout au moment que les cultures en ont besoin, puisqu'il n'existe pas de culture sans eau. Donc, plus les périodes sans pluie sont longues, plus les chaleurs sont là, plus il y a du vent et plus il y a des besoins en eau. Donc là-dessus, il y a plusieurs choses, il faut pouvoir en retenir sur les territoires le plus possible. Il peut y avoir du stockage par des retenues collinaires aux endroits où c'est possible d'en faire et ainsi de suite. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire stocker dans les sols. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir augmenter ce pourcentage d'infiltration de l'eau, c'est-à-dire que ça ruisselle moins et que l'eau puisse beaucoup mieux rentrer dans les sols. Donc ça passe par différentes techniques plus ou moins sophistiquées, avancées, faciles, difficiles à mettre en place, possibles ou pas, selon les cultures, selon le sol, selon le sous-sol. Donc, on souhaite pouvoir travailler sur tout un panel à l'échelle du territoire qui permet de pouvoir répondre au maximum à cela, dans le but que le premier gagnant, ce soit les milieux. Hein. Après, il n'y a pas des nappes de partout en sous-sol, donc c'est là qu'il faut intervenir de façon plus superficielle ou autre.
Tout cela demande aussi de réaménager parfois des parcelles, de changer parfois de technique, de travail, tout ça. Comment est-ce que ça chemine au sein des agriculteurs? Je veux dire, ça demande aussi du temps, des moyens. Comment est-ce que cette idée chemine au sein de la Chambre et puis parmi les agriculteurs?
Bien sûr que ça chemine, mais l'oreille est vraiment attentive aujourd'hui. Aujourd'hui, les agriculteurs savent bien qu'il y a des choses à faire évoluer encore. Ça, c'est pas un souci. Après, c'est vrai qu'on peut pas faire la même chose de partout. Quand vous avez des parcelles plus plates, de grandes cultures ou autres, de vignes ou autres, vous les travaillez pas de la même façon que quand c'est des prairies qui sont uniquement pâturées par des animaux. Là, c'est beaucoup plus facile si on coupe des parcelles au milieu, qu'on fait une haie, qu'on fait une petite digue dans le but de retenir l'eau, qu'on fait tout ça, bon, ça gêne pas au niveau des animaux pour pâturer. Du moment où c'est des parcelles qui sont mécanisées, on peut pas faire tout à fait les mêmes choses quand même. Donc, il faut essayer de garder au maximum tout ce qu'on a comme production sur le département et mettre des solutions adaptables à chaque territoire, à chaque relief, à chaque culture ou mode de production. Donc, voilà, il y a besoin d'aménagements. Des fois, c'est des petits aménagements fonciers. Des fois, c'est des plantations de haies. Des fois, c'est un mode de travail de sol qui est d'une façon différente aussi, pas en longueur de la pente, mais en travers. Ça peut être également l'implantation de cultures et tout ce qui peut être les cultures intermédiaires entre deux cultures. Eh bien, aujourd'hui, on est obligé de couvrir des sols pour éviter la pollution des nappes par-dessous par l'excès de nitrate. Mais par contre, là, selon le type de culture qu'on va mettre au milieu, d'espèces, on va faire quelque chose qui va faire des galeries dans le sol. Donc, quand le pivot va dessécher, l'eau va mieux s'infiltrer. Quand elle va tomber, l'eau ne va pas ruisseler et emmener de la terre. Elle va rester beaucoup plus qu'elle est à ses racines. Bon, il y a des tas de choses. Et voilà, il faut faire du cas par cas et essayer de démultiplier ça à grande échelle sur l'ensemble des territoires, de partout où c'est possible, de partout où il y a l'adhésion des agriculteurs. Parce que le but, c'est qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent. Une fois que l'agriculteur, il a compris qu'il peut y en tirer quelque chose d'une façon lui-même ou pour son territoire ou ainsi de suite, je veux dire, il y a cette adhésion et là, on démultiplie vraiment les choses et on voit après du résultat.
Merci, Jean-Pierre Royenet.
Merci à vous.
Marc-Antoine Forconi, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des collectivités ou des soutiens, des politiques publiques pour aller plus loin sur ces questions de gestion de l'eau aussi, et que ça ne repose pas uniquement sur les agriculteurs?
Les solutions sont multiples en fait. C'est comme toujours, il n'y a pas une vérité. Et c'est le cumul de toutes les petites solutions qui fera que les choses pourront changer. Ça c'est un projet qu'on mène avec la Biovallée notamment qui s'appelle Rayout. Cette idée d'essayer de récupérer en fait les eaux des stations d'épuration. Aujourd'hui on jette les eaux de stations d'épuration dans les rivières, ce qui entraîne tout un tas de problèmes parce qu'il y a encore des éléments aussi dedans qui n'ont pas réussi à être traités. Et qui en fait la seule chose qui arrive à les traiter, c'est souvent les champignons du sol, donc c'est plus dans le sol qu'il faudrait que ça finisse que dans les rivières, et surtout c'est une ressource en eau qui est phénoménale. Pour moi, quand même, cet enjeu agricole, j'y reviens parce que 90% des surfaces, ça reste l'agriculture. L'agriculteur, il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps d'aller planter des arbres et de regérer son paysage. Et pourtant, souvent, il en a conscience que c'est ça qu'il faudrait faire. Du coup, il nous faut des accompagnements, il faut des aides pour planter, il faut souvent les accompagner, que ce soit au niveau technique, mais aussi pour la mise en place, pour les protections. En fait, il y a énormément de services, de choses qui ont été déléguées à l'agriculture et qu'aujourd'hui, on ne valorise pas et où ce n'est pas juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé d'un écosystème, c'est clairement l'agriculteur d'une commune qui va l'avoir en charge sans même qu'il le conscientise. Et pourtant, c'est le bien commun qui fait que toutes les personnes de la commune vont être heureuses d'y être ou vont avoir une autre qualité, vont avoir un air de qualité, vont avoir des produits de qualité à manger. Et donc, moi, je sais que les habitants, ici sur le village, ils nous aident dans tous ces projets de plantation, de chantier castor, de régénération des forêts. Et ils en sont ravis, en fait, parce que c'est leur village dont ils sont en train de prendre soin et où on leur redonne les moyens de faire quelque chose. Et voilà, du coup, c'est quelque chose qui met en joie tout le monde. Et c'est en général des très, très bonnes journées qu'on passe. Et ça, c'est pareil, c'est compliqué et long à organiser, mais pareil, les collectivités devraient aider en fait à mettre en place des choses comme ça. Ça sensibilise et c'est l'un des meilleurs moyens d'action et qui coûte aussi le moins cher.
Merci Marc-Antoine.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui va dans le bon sens? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux selon toi en termes de politique publique, de mise en réseau?
Tout ça est naissant.
Simon Ricard.
Tout reste à faire et il y a à faire ensemble, quoi. Donc, ce qui marche bien, c'est déjà la dynamique de s'emparer du sujet, pour beaucoup, et que de tous s'emparer du sujet. Je travaille, par exemple, du syndicat Mise de la Rivière Drôme autour du SAGE 2050 et d'avoir mis clairement le pilier de la résilience et donc de la résilience hydrique comme thème fort. Voilà, ça, c'est un peu un préalable. Ça fait pas tout, évidemment. Et donc, voilà, ce qui reste à faire, évidemment, c'est de pouvoir faciliter l'émergence de projets à l'échelle là aussi idéalement de sous-bassins versants, de bassins versants, où on va pouvoir mettre en œuvre des changements de pratiques au niveau des sols, donc au niveau de l'agricole. Donc ça veut dire aider et favoriser les agriculteurs dans ce sens-là, puisque c'est souvent par eux que l'espace est occupé, mais aussi dans les milieux forestiers, tout ça. Donc il reste à faire sur comment faciliter la mise en œuvre de ces projets. Les compétences sont là, on va dire, les volontés sont là, mais évidemment ça se heurte à plein de problématiques, à diverses problématiques, et voilà, l'enjeu il est là, il est de faciliter l'émergence de ces projets et de faire des formes de dialogue territorial, c'est-à-dire que tous les acteurs institutionnels et politiques, mais aussi et surtout les citoyens et les acteurs du territoire, les agriculteurs par exemple, prennent à cœur le sujet quand il y a une inondation, quand il y a ou des pénuries d'eau comme ce qu'on a eu il y a 2 ans. Et ben ça mobilise en fait, ça met en mouvement, et effectivement il y a à la mesure des enjeux, des problématiques que soulève l'eau, on peut espérer des différents acteurs et des citoyens pour réaliser des projets à toutes les échelles du territoire, quoi.
Merci, Simon Ricard.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qui fonctionne sur le territoire en termes de gestion de l'eau et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, selon vous?
Moi, je m'aperçois quand les gens sont face à un défi à relever, face à un manque d'eau, ben les gens réagissent.
Pascal Baudin.
Donc, il faut vraiment qu'on sensibilise à ça. Et puis, l'agriculture, elle doit prendre un virage. Le problème de l'agriculture, c'est qu'il y a cette notion de production, de prix. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'une exploitation, elle doit avoir aussi sa faculté de nourrir l'agriculteur qui est dessus. Et que ce n'est pas facile quand il faut changer de technique, quand il faut changer de culture. Je crois qu'il y a un véritable défi qui est à prendre. Mais ce défi, je crois qu'on ne peut pas le repousser. Il y a une urgence. Il faut s'y atteler. Il y a tout un tas de choses possibles à faire. Je crois qu'il faut chercher des solutions tout azimut. Avant tout, la sobriété, voir où est-ce qu'on peut économiser. La résilience, hein, l'adaptation à ce choc. Le partage, parce qu'aujourd'hui, le partage en agriculture, je ne suis pas sûr qu'il soit bien fait, comme il n'est pas forcément bien fait au niveau de l'eau potable non plus. Et puis, en dernier lieu, ce stockage. Parce qu'on en a besoin à certaines époques où il n'y aura pas d'autre solution que d'en stocker. Mais je crois qu'à travers le stockage, c'est surtout expliquer pourquoi on stocke. On le voit avec Sainte-Soline, des choses comme ça. L'eau, elle ne doit pas être accaparée par quelques-uns pour faire n'importe quoi. Donc l'eau, on a besoin d'avoir une acceptation sociale, de se dire elle sert pour telle culture, parce que cette culture-là, on en a besoin dans le bassin versant, parce que ça permet de nourrir la population dans le bassin. C'est pas une culture qu'on envoie à l'autre bout du monde pour être consommée ou transformée. Donc il faut que l'agriculture dise ce qu'elle va faire de cette eau. Il faut qu'elle soit éventuellement pour de l'eau potable aussi. Et puis oui, prendre de l'eau dans les nappes phréatiques, moi je pense que ce serait une bêtise, même si certains considèrent que le sous-sol regorge d'eau. Moi, je pense qu'il faut faire très attention en matière d'eau souterraine. Et puis, chaque génération a eu des défis à relever. Voilà, les jeunes qui sont aujourd'hui sur les bancs des lycées agricoles, ils ont un défi à relever, c'est de continuer à faire de l'agriculture dans nos coins. Et puis, on trouvera des solutions.
Merci, Pascal Bonin.
Merci à vous.
C'était Théo Fortunato pour Radio Saint-Ferréol avec l'émission Il est une vallée, épisode que vous pouvez retrouver en podcast sur les sites radiosaintfé.com et erdiwa.fr puisque c'est une émission en partenariat avec Erdiwa ainsi qu'avec le soutien de Biovallée. On se retrouve le mois prochain pour parler cette fois encore un petit peu d'agriculture mais cette fois sous l'angle de l'alimentation dans un nouvel épisode d'Il est une vallée. Bonne journée à toutes et à tous.